Soudain, Sophie sursauta de sa chaise.
« Regarde là-bas »
hurla-t-elle en montrant du doigt quelque chose de l'autre côté de la fenêtre. Près du lac, un homme et une femme marchaient main dans la main, tout nus. « C'est Adam et Ève, » dit Alberto. Il fallait bien qu'ils acceptent un jour ou l'autre d'avoir le même destin que le petit chaperon rouge et Alice au pays des merveilles. Cela explique leur présence ici. Sophie alla à la fenêtre et les regarda se glisser entre les arbres. Parce que Darwin pensait aussi que les hommes descendaient des animaux? En 1871, il publia le livre « The Descent of Man and Selection in Relation of Sex », « La descendance de l'homme et la sélection sexuelle », traitant de la généalogie de l'homme. Il montre toutes les grandes ressemblances qui existent entre les hommes et les animaux et en conclut que les hommes et les hommes-singes doivent bien descendre d'un ancêtre commun. On venait à cette époque de retrouver les premiers crânes d'un être humain, d'abord dans une carrière des falaises de Gibraltar et quelques années plus tard à Néandertal, en Allemagne. Par un fait étrange, ce livre rencontra moins d'opposition que son premier livre en 1859 sur l'origine des espèces. Il faut dire qu'on trouvait déjà en germe, dans ce livre, l'idée que l'homme descendait de l'animal. Toujours est-il que lorsqu'il mourut en 1882, Darwin eut droit à de grandes funérailles solennelles en tant que pionnier en matière de science. Il finit donc par récolter tous les honneurs? À la fin, oui. Mais il fut considéré un temps comme l'homme le plus dangereux d'Angleterre. Ça alors? Espérons que tout ceci n'est pas vrai, avait dit une dame comme il faut. Mais si cela devait être vrai, espérons que cela puisse rester entre nous. Un scientifique d'une certaine notoriété avait quelque peu exprimé la même chose en disant « C'est une découverte humiliante, et moins on en parlera, mieux ça vaudra. » On dirait qu'ils veulent plutôt démontrer que l'homme descend de l'autruche. Ça, tu peux le dire. Mais il est facile de juger avec le recul, alors que sur le moment, beaucoup se voyaient contraints de voir d'un œil radicalement neuf tout le récit de la création dans la Bible. Le jeune écrivain, John Ruskin, l'exprima en ces termes. Si seulement les géologues pouvaient me laisser tranquille, à la fin de chaque verset de la Bible, j'entends résonner les coups de leur marteau. Et ces coups de marteau, c'était la parole de Dieu mise en doute? Sans doute. Mais ce n'était pas seulement l'interprétation au pied de la lettre de la création dans la Bible qui devenait caduque. Toute la théorie de Darwin repose sur l'idée que ce sont des variations tout à fait accidentelles qui ont, en dernière instance, permis à l'homme d'apparaître sur la terre. En d'autres termes, Darwin avait osé faire de l'homme le produit de quelque chose de fort peu romantique, à savoir la lutte pour la vie. Est-ce que Darwin précise comment ont lieu ces variations accidentelles? Tu touches là le point faible de sa théorie. Il ne pressentait que très vaguement l'importance de l'hérédité. Certains caractères disparaissent lors d'un croisement. Un couple n'aura jamais deux enfants parfaitement identiques. Déjà là, il y aura une légère variation. D'un autre côté, jamais quelque chose de vraiment neuf ne verra le jour de cette manière. Il y a des plantes et des animaux qui se créent par gémation ou division cellulaire. Quant à savoir comment ces variations apparaissent, le néo-darwinisme s'est chargé d'y répondre en complétant ainsi la théorie de Darwin. Raconte. Tout ce qui est vivant, tout ce qui se crée, a fondamentalement un rapport avec la division cellulaire. Quand une cellule se divise en deux, cela crée deux cellules avec exactement le même patrimoine génétique. La division cellulaire est en fait un processus de duplication d'une cellule. Et alors? Mais il arrive que de minuscules erreurs se glissent lors de ce processus, de sorte que le double de la cellule ne ressemble pas 100% à la cellule qui a servi de modèle. La biologie moderne appelle cela une mutation. Certaines mutations peuvent n'avoir pas le moindre intérêt, tandis que d'autres peuvent provoquer de grandes modifications dans les qualités de l'individu. Il peut y en avoir de carrément nuisibles, et ces « mutants » doivent régulièrement être supprimés à la prochaine génération. Beaucoup de maladies sont en fait la marque d'une mutation. Toutefois, une mutation peut aussi donner à l'individu précisément le petit plus dont il a besoin pour mieux lutter pour sa survie. Comme avoir un long cou, par exemple? La marque prétendait que les girafes avaient fini par avoir un long cou à force de le tendre pour attraper les feuilles des arbres. Mais d'un point de vue darwiniste, une caractéristique de ce genre ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Darwin considérait le long cou des girafes comme une variation naturelle des coups des ancêtres. Le néo-darwinisme se contente de donner la cause de telle ou telle variation. Ce qu'on appelle les mutations. Oui, des modifications tout à fait accidentelles du patrimoine génétique ont doté certains ancêtres des girafes d'un cou un peu plus long que la moyenne. Comme la nourriture était limitée, ce détail eut son importance, car celles qui atteignaient les branches les plus élevées s'en sortaient mieux. Il est également fort probable que parmi ces ancêtres de girafes, certaines développèrent la faculté de creuser la terre à la recherche de nourriture. Au bout d'un certain temps, une race en voie d'extinction peut donc se diviser en deux nouvelles races.
Je vois.
Nous allons prendre quelques exemples plus récents pour montrer comment s'opère cette sélection naturelle. C'est en fait un principe extrêmement simple. Je t'écoute. Il existe en Angleterre une espèce de papillon que l'on appelle la phalène du bouleau. Comme son nom l'indique, il habite sur les troncs clairs des bouleaux. Si nous remontons au XVIIIe siècle, la plupart de ces papillons étaient d'un beau bleu-gris. Et tu sais pourquoi, Sophie? Peut-être était-il moins visible pour les oiseaux affamés? Mais de temps à autre, certains naissaient avec une couleur plus sombre. Cela était dû à des mutations tout à fait accidentelles. Que crois-tu qu'il arriva à ces variantes plus sombres? Elles étaient plus repérables et donc une proie plus facile pour les oiseaux en quête de nourriture. Oui, car dans ce milieu, ici les troncs argentés des bouleaux, la couleur foncée était un inconvénient. Aussi se multiplièrent les espèces claires au détriment des espèces sombres. Mais le milieu changea. À cause de l'industrialisation, les troncs argentés devinrent tout noirs. Et alors, à ton avis, qu'arriva-t-il aux papillons plus sombres? Eh bien, ce sont eux qui s'en tirèrent le mieux, c'est ça? Oui. Très vite, ils se multiplièrent. De 1848 à 1948, ils augmentèrent même dans la proportion de 99% dans certains endroits. Les derniers perdants, de couleur claire, étaient irrémédiablement éliminés par les oiseaux dès qu'ils faisaient tache contre les troncs sombres. Puis, de nouveau, on assista à un important changement de milieu. On utilisa moins de charbon et on équipa les usines de stations d'épuration qui préservent l'environnement. Alors les troncs sont redevenus argentés? C'est pourquoi les papillons sont en train de retrouver leur couleur claire d'origine. C'est ce qu'on appelle la faculté d'adaptation. C'est une loi naturelle.
Je comprends.
Mais l'homme peut intervenir de différentes manières sur l'environnement.
À quoi penses-tu en disant ça?
On a par exemple essayé de combattre des parasites avec divers produits toxiques. Cela donne tout d'abord un bon résultat. Mais quand on répand des insecticides sur un champ ou un verger, on provoque en même temps une petite catastrophe écologique à cause des insectes que l'on veut tuer. Les mutations au sein de la même espèce peuvent produire un groupe de parasites résistants aux poisons utilisés. Ces gagnants peuvent alors librement se multiplier et cela devient un vrai casse-tête pour éliminer ces espèces de parasites qui deviennent de plus en plus résistants au fur et à mesure que l'homme essaie de les combattre, puisque seules les variantes les plus résistantes survivent aux divers traitements inventés par l'homme pour les décimer.
Mais c'est effrayant!
Cela mérite en tout cas réflexion. Mais dans notre propre corps aussi, nous essayons de combattre des parasites nuisibles. Je veux parler des bactéries.
Nous utilisons la pénicilline et d'autres antibiotiques.
Une cure de pénicilline est précisément une catastrophe écologique pour ces petits diables. Mais plus nous prenons de pénicilline, plus ces bactéries deviennent résistantes. Nous sommes ainsi responsables de l'apparition de bactéries beaucoup plus difficiles à combattre qu'avant, ce qui nous oblige à utiliser des antibiotiques de plus en plus forts. Mais à la fin...
les bactéries vont pulluler dans notre bouche et se frayer un chemin pour sortir. Qui sait, on sera peut-être obligé de leur tirer dessus.
Sans aller jusque-là, il faut reconnaître que la médecine moderne se trouve devant un vrai dilemme. Certains microbes sont devenus plus agressifs qu'avant. Il faut se rappeler que peu d'enfants survivaient autrefois aux maladies infantiles. La médecine moderne a en quelque sorte écarté la sélection naturelle. Ce qui, au départ, aide l'individu à surmonter une défaillance passagère, peut finir par affaiblir tout le genre humain en le rendant moins résistant aux diverses maladies qui le menacent. Si nous n'en tenons pas compte, nous allons lentement assister à une dégénérescence du genre humain. À la longue, l'homme n'aura pas le bagage héréditaire suffisant pour être en mesure de s'adapter et de lutter contre les maladies graves.
Voilà des perspectives peu réjouissantes.
Mais il est du devoir d'un vrai philosophe de déciler les yeux des gens. Bon, résumons-nous.
Je t'en prie.
La vie est comme une grande loterie où l'on ne voit que les lots gagnants.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Ceux qui n'étaient pas assez résistants ont été éliminés. Derrière chaque espèce végétale ou animale, il y a eu des millions d'années où a joué la sélection naturelle qui n'a laissé survivre que les lots gagnants. Les lots perdants, eux, ne sont apparus qu'une seule fois.
Seuls les meilleurs sont restés, c'est ça?
Si tu veux.
Tiens, tu peux me passer l'image, là. Tu sais, celle que ce vieillard, ce drôle de gardien de zoo, nous a apportée tout à l'heure.
Sophie lui tendit la reproduction.
Elle représentait d'un côté une image de l'Arche de Noé et de l'autre un arbre généalogique avec toutes les différentes espèces animales.
C'est ce côté qu'Alberto voulait montrer à Sophie. Ce schéma illustre la répartition des différentes espèces végétales et animales. Tu peux voir comment elles sont regroupées en différentes familles, sous-groupes, etc.
Oui.
L'homme appartient au même titre que le singe à la famille des primates. Les primates sont des mammifères, et tous les mammifères sont des vertébrés qui, à leur tour, font partie des animaux dits pluricellulaires.
Ça rappelle un peu Aristote?
C'est vrai, mais ce schéma ne retrace pas seulement la lignée de toutes ces espèces aujourd'hui, mais aussi l'histoire de l'évolution du vivant. Les oiseaux, par exemple, se sont un jour différenciés des reptiles, et les reptiles, un jour, se sont différenciés des amphibiens, comme ceux-ci, à leur tour, se sont différenciés des poissons.
Oui, ça apparaît clairement sur le schéma.
Chaque fois qu'une ligne s'est scindée en deux, selon Darwin, des mutations ont créé de nouvelles espèces. C'est ainsi qu'au cours des millénaires, se sont succédées toutes ces familles et ces groupes d'animaux. Cela dit, ce schéma est très simplifié. Plus d'un million d'espèces animales existent de nos jours, et ce n'est qu'une goutte d'eau comparée à toutes les espèces qui ont un jour vécu sur cette Terre. Tu peux constater que la famille des trilobites, par exemple, a complètement disparu de nos jours.
Tout en bas, il y a les animaux formés d'une seule cellule.
Certains d'entre eux sont peut-être restés tels quels pendant des milliards d'années. Tu peux voir qu'une flèche relie ces organismes monocellulaires au monde végétal. Les plantes proviennent probablement de la même cellule originelle que tous les animaux.
Je vois ça. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Quoi donc?
D'où vient cette première cellule originelle? Quelle était l'explication de Darwin?
Je t'ai déjà dit que c'était un homme prudent. Il s'est cependant permis, sur ce point très précis, de formuler l'hypothèse suivante.
Si...
Oh. Quelle si! Nous pouvions nous représenter un petit étang aux eaux tièdes, qui contiendrait toutes les sortes de sels ammoniaques et phosphoriques, la lumière, la chaleur, l'électricité, etc. Et que des protéines s'aggloméraient chimiquement, lesquelles pourraient continuer à connaître des transformations plus complexes.
Eh bien?
Darwin philosophe ici pour comprendre comment la première cellule vivante a pu naître de la matière inorganique. Encore une fois, il anticipe. La science contemporaine part justement de l'idée que la première forme primitive de vie est apparue dans un petit étang aux eaux tièdes, comme l'imaginait Darwin.
Raconte.
Nous allons nous en tenir à un schéma assez simple, mais qui n'a rien à voir avec Darwin. Nous parlons à présent des toutes dernières recherches sur l'origine de la vie sur Terre.
Ça me met presque mal à l'aise. Personne ne peut vraiment savoir comment la vie est apparue sur la Terre.
Peut-être pas, mais nous possédons de plus en plus d'éléments qui complètent le puzzle et qui permettent d'expliquer comment la vie a pu apparaître.
Continue.
Il faut d'abord constater que toutes les formes de vie sur Terre sont formées à partir des mêmes matières. La définition la plus simple de la vie est celle qui dit que la vie est une matière qui a la possibilité de se diviser en deux parties tout à fait identiques lors d'un processus évolutif qui est dû à l'ADN, acide désoxyribonucléique. Ce que nous appelons l'ADN, ce sont les chromosomes ou les gènes qui sont présents dans chaque cellule vivante. Nous parlons aussi de molécules d'ADN, car l'ADN est en fait une molécule compliquée, une macromolécule si tu préfères. Toute la question est de savoir comment la première molécule d'ADN a vu le jour.
Et alors ?
La Terre vit le jour quand le système solaire fut formé il y a 4,6 milliards d'années. C'était à l'origine une masse en fusion, mais l'écorce terrestre se refroidit petit à petit. La science moderne pense que la vie est apparue sur la Terre il y a environ 3 à 4 milliards d'années.
Cela paraît totalement invraisemblable.
Attends la suite au lieu de juger prématurément. N'oublie pas que la Terre avait une toute autre apparence qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de vie et il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il fallut attendre la photosynthèse par les plantes pour qu'il y ait de l'oxygène. Ceci est fondamental, car il est impensable que les éléments fondateurs de la vie, qui à leur tour peuvent former l'ADN, aient pu voir le jour dans une atmosphère contenant de l'oxygène.
Pourquoi ça ?
Parce que l'oxygène est une matière très réactive. Longtemps avant que ne puissent se former les molécules complexes comme l'ADN, ces pierres fondatrices, les cellules moléculaires d'ADN se seraient oxydées.
Ah bon ?
C'est pourquoi nous avons la certitude que de nouvelles formes de vie ne peuvent pas apparaître de nos jours, pas même une bactérie ou un virus. Toute vie sur Terre doit remonter très exactement à la même époque. Un éléphant a un tableau généalogique aussi long que le microbe le plus simple. Tu peux aller jusqu'à dire qu'un éléphant, ou un être humain, est en réalité toute une colonie mise bout à bout d'organismes monocellulaires, car chaque cellule de notre corps a exactement le même patrimoine génétique. La recette qui produit ce que nous sommes est donc cachée dans la moindre cellule de notre corps.
Ça fait une drôle d'impression d'y penser.
Une des grandes énigmes de la vie est que les cellules, dans un organisme pluricellulaire, possèdent cependant une faculté de développer une fonction particulière. Toutes les facultés héréditaires ne fonctionnent pas dans toutes les cellules. Certaines de ces facultés, de ces gènes, sont branchées, d'autres débranchées. Une cellule du foie produit d'autres protéines qu'une cellule d'un nerf ou de la peau. Mais ces trois cellules ont la même molécule d'ADN qui possède, elle, l'intégralité de la recette de l'organisme en question.
Continue.
Quand il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, il n'y avait pas non plus de couche d'ozone pour protéger la surface du globe. En d'autres termes, il n'existait aucune barrière contre le rayonnement de l'univers. Ceci aussi est très important, car ce rayonnement a sans aucun doute joué un rôle essentiel lors de la formation des premières molécules complexes. Un tel rayonnement cosmique fut l'énergie même qui permit aux différentes substances chimiques présentes sur la Terre de s'unir pour former des macromolécules plus complexes.
D'accord.
Je tiens encore une fois à préciser pour que de telles molécules complexes qui sont à la base de toute vie puissent se former, deux conditions doivent néanmoins être remplies. Il ne doit pas y avoir d'oxygène dans l'atmosphère et le rayonnement de l'univers ne doit rencontrer aucun obstacle.
Je comprends.
Dans le petit étang aux eaux tièdes, ou encore la soupe primitive, comme s'amusent à l'appeler certains scientifiques aujourd'hui, une énorme macromolécule s'est formée un jour, avec l'étrange faculté de pouvoir se diviser en deux parties tout à fait identiques. Ceci marqua le départ de toute l'évolution à venir, Sophie. En simplifiant un peu, nous pouvons dire que nous parlons déjà du premier gène, de la première molécule d'ADN ou de la première cellule vivante. Elle n'arrêta pas par la suite de se diviser en deux. Mais dès le départ, il y eut d'innombrables mutations. Au bout d'un temps infini, des organismes monocellulaires se sont assemblés pour former des organismes pluricellulaires plus complexes. Il y eut la photosynthèse des plantes, ce qui a permis à l'oxygène de se former dans l'atmosphère. Cela eut deux conséquences. Les conditions étaient réunies pour que vivent des animaux, puisqu'ils pouvaient respirer avec des poumons. Et l'atmosphère protégea la vie des rayons nocifs de l'univers. Car précisément ce rayonnement, qui fut sans doute une étincelle déterminante pour la formation de la première cellule, est nocif pour tout ce qui vit.
Mais l'atmosphère n'a quand même pas été formée du jour au lendemain. Comment les premières formes de vie ont-elles réussi à survivre?
La vie apparut d'abord dans l'océan primitif, c'est-à-dire dans cette soupe primitive dont nous avons déjà parlé. Il pouvait y vivre dans un milieu protégé du rayonnement dangereux. Beaucoup plus tard, longtemps après que la vie dans l'océan eut formé l'atmosphère, les premiers amphibies rampèrent hors de l'eau et gagnèrent la terre. La suite, tu la connais. Et nous voilà tous les deux assis dans un chalet dans la forêt, à regarder en arrière et considérer un processus qui a pris 3 ou 4 milliards d'années. C'est en nous que ce long processus a pris conscience de lui-même.
Et tu continues à penser que tout n'est que le fruit du hasard?
Non, je n'ai pas dit cela. Cette reproduction montre bien que l'évolution a eu une direction. Au cours des millénaires, les animaux ont développé un système nerveux de plus en plus complexe, ainsi qu'un cerveau de plus en plus important. Je ne crois pas pour ma part que cela soit le fait du hasard. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
L'œil de l'homme ne peut pas être un pur et simple fait du hasard. Crois-tu qu'il y ait une signification derrière le fait que nous pouvons voir le monde qui nous entoure?
Cette évolution de l'œil a aussi intrigué Darwin. Il trouvait que l'œil, qui est quelque chose d'infiniment subtil, ne cadrait pas tout à fait avec le système de la sélection naturelle. Sophie regarda Alberto en silence. Elle réfléchissait qu'il était décidément bien étrange d'être en vie maintenant, de ne vivre qu'une seule fois et de ne plus jamais revenir sur cette terre. Elle s'écria soudain,
« Que signifie alors l'éternelle création? Emporter l'être créé et le réduire à rien ?»
Alberto lui jeta un regard sévère. « Tu ne dois pas parler comme ça. Tu viens de prononcer les paroles du diable. »
« Du diable ?»
De Méphistophélès, dans le Faust de Goethe. « Was soll uns denn das Ewige schaffen? Geschaffen es zu nichts in wirkt zu raffen. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Au moment de mourir, Faust jette un regard en arrière sur toutes ses actions et clame d'un ton triomphant « Je pourrais alors dire au moment « Demeure donc, tu es si beau. La trace de mes jours terrestres ne peut être anéantie dans les éons. Dans le pressentiment d'une si grande félicité, je jouis maintenant du plus sublime moment. »
C'est joliment exprimé,
mais c'est au tour du diable de prendre la parole. Faust n'a plus longtemps à vivre, lance-t-il. Fini, mot absurde. Pourquoi fini? Fini et pur néant sont absolument identiques. emporter l'être créé et le réduire à rien? C'est fini. Que faut-il entendre par là? C'est comme si cela n'avait jamais été. Et cependant, cela s'agite dans le cercle comme si cela existait. J'aimerais mieux encore le vide éternel.
Quel pessimisme! Je préférais encore la première citation. Même si sa vie était terminée, Faust voyait un sens dans les traces qu'il avait laissées derrière lui.
Au fond, n'est-ce pas indirectement une conséquence de la théorie de Darwin sur l'évolution si chaque forme de vie, aussi infime soit-elle, participe à sa façon à quelque chose d'infiniment plus grand? La planète vivante, c'est nous, Sophie. Nous sommes le grand bateau qui navigue autour d'un soleil brûlant au sein de l'univers. Mais chacun d'entre nous est aussi un bateau qui traverse la vie avec son chargement de gènes. Si nous parvenons à livrer la marchandise à bon port, nous n'aurons pas vécu en vain. Le grand poète norvégien du XIXe siècle, Bjørnstjerne Bjørnson, exprima la même idée dans son poème, Psaume 2. Honore le court printemps de la vie, qui est à l'origine de toutes choses sur terre. Le plus infime connaîtra lui aussi une résurrection. Seules les formes se perdent. Les générations engendrent de nouvelles générations, laissant s'épanouir l'humanité plus avant. L'espèce engendre l'espèce pendant des millions d'années. Les mondes déclinent et renaissent. Mêle-toi à la jouissance de la vie, toi qui pus fleurir en son printemps. Savoure chaque instant comme un hommage de l'Éternel, offert à la condition des hommes. Apporte ta modeste contribution au tourbillon infini, même faible et insignifiant. Enivre-toi de l'éternité de cette journée.
Comme c'est beau! Bon, assez parlé. Je dis coupé. Allez, arrête avec ton ironie.
Coupé, j'ai dit, et il faut m'obéir.